Nous voici dans les trompettes, la fée des trompettes qui font du bruit. Ce matin, vous avez beaucoup entendu parler de la voix de Dieu et de ce qu'elle signifie. Nous sommes maintenant dans l'après-midi, nous pensons au jour, aux trompettes, à l'explosion. Vous avez presque entendu des trompettes ici, dans le choral, avec certaines de ces grosses notes qu'elles émettent. Les trompettes utilisent la Bible encore et encore et encore. Les trompettes historiques peuvent être utilisées à de nombreux endroits différents, dans des buts différents et selon des types différents. Sans parler de l'application prophétique des trompettes, de ce qu'elles signifient et du moment où elles seront utilisées. Pour tous ces éléments de trompettes dans la Bible, il n'y a vraiment que deux sortes de trompettes différentes auxquelles la Bible fait référence. Il y a le shofar, la corne de bélier, et la trompette d'argent. De seulement. Ce n'est pas une trompette comme nous le pensons aujourd'hui. C'est ma trompette. Vous savez ce qu'est une trompette. C'est cette longue et mince trompette d'argent qu'ils utilisaient ou la corne de bélier. Mais saviez-vous qu'avec ces deux trompettes, qui sont plus des instruments qu'autre chose, il s'agissait moins de ces instruments que du type de trompette qu'ils utilisaient? Nous entendons constamment parler du fait qu'il y a des trompettes dans la Bible et que des trompettes sont utilisées. En fait, avant que je ne commence à approfondir ce sujet, vous pensez probablement comme moi au grand coup de trompette. C'est ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux trompettes en ces jours où vous entendez parler de la trompette de Dieu. Il s'agit d'un grand, long et fort coup de trompette. En fait, la trompette émet trois types de sons différents. Trois façons différentes d'en jouer, que ce soit avec le chauffe-feu ou avec la trompette d'argent. Trois façons différentes de la jouer. Chacun d'entre eux peut avoir une signification très différente qui a quelque peu évolué au fil du temps, mais qui remonte très, très loin pour nous apporter et donner un sens à cette journée des trompettes. Explorons quelques-uns de ces sons de trompettes. Nous allons parcourir la Bible et les relier à certains aspects spirituels que vous n'avez peut-être pas encore associés au jour des trompettes. Tout commence en Israël. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Tout commence toujours en Israël. Nous arrivons au jour saint d'automne de la sortie d'Égypte, qui se répète au printemps, de la même manière. Ils ont pris un mauvais virage, si l'on peut dire, pendant environ 40 ans, alors qu'ils étaient en route vers la terre promise. C'est un peu comme notre vie, n'est-ce pas? Pensez à Israël dans votre propre vie. Vous aviez cette nation, ils étaient esclaves. Longtemps, Dieu est venu par l'intermédiaire de Moïse et a pris cette nation qui faisait toutes sortes de bêtises. Le paganisme était évident, ils avaient les dieux égyptiens, ils mangeaient probablement de mauvais aliments, et Dieu a pris cette nation et lui a dit, « Nous voulons vous mettre sur une voie différente. » Dieu par l'intermédiaire de Moïse. C'est en fait ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas? Nous avions toutes ces choses païennes, nous mangions de mauvais aliments et nous vivions d'une manière erronée. À un moment donné, Dieu nous a ouvert les yeux pour nous dire, « Non, je vais vous faire suivre un autre chemin. » Il voulait atteindre la terre promise. À bien des égards, il en va de même pour nous. Pour eux, le chemin vers la terre promise est semé d'embûches. On pourrait dire que ce n'est pas facile pour nous non plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que nous présentons cette image deux fois par an, car c'est l'image ultime de ce que signifie ce mode de vie, cette sortie d'Égypte. Vous avez toujours ces questions que vous voulez poser à Dieu. En voici une qui m'a toujours trotté dans la tête. D'une certaine manière, c'est le scénario de la poule et de l'œuf. Dieu, qui existe hors du temps, a-t-il clairement vu ce qu'Israël allait faire? A-t-il laissé cela se produire parce qu'il savait que ce serait une analogie parfaite pour les chrétiens, des milliers d'années plus tard, afin qu'il puisse se faire une idée de ce que signifie sortir du péché? Ou bien Dieu a-t-il pris des citrons quand Israël a fait ce qu'il a fait et en a-t-il fait de la limonade pour notre exemple du Nouveau Testament dans la vie que nous vivons aujourd'hui? Il est en dehors de l'espace et du temps. Vous pouvez opter pour l'une ou l'autre solution. Il y a beaucoup de questions à poser à Dieu. L'avez-vous laissé faire? Avez-vous fait cela? C'est l'une d'entre elles. Allons à l'Exode 13. Examinons ce récit d'abord dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau. Vous vous dites, de quoi parlons-nous? Ce n'est pas le jour des pains sans levain. Nous y arriverons. Vous verrez. Exode, chapitre 13. Quelques versets seulement. Nous commencerons au verset 21. 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Verset 22. Il ne retira pas de devant le peuple la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, alors qu'ils marchaient et marchaient et marchaient à travers le pays, ce qu'ils firent finalement pendant 40 ans dans le désert. Développons ce point dans le Nouveau Testament. Premier chapitre des Corinthiens. Lisez un peu plus ici. Commencez par le premier verset. Premier Corinthiens, chapitre 10, premier. Au reste, frères, je ne veux pas vous laisser ignorer que tous nos pères ont été sous la nuée et qu'ils ont traversé la mer. Il s'agit de la version du Nouveau Testament, qui explique en quelque sorte le récit. Verset 2. Ils furent baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, pendant qu'ils la traversaient, et ils mangèrent tous la même viande spirituelle, et ils burent tous au même rocher spirituel, car ils burent à ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher qui les suivait. Il s'agit simplement d'une pépite de la connaissance étonnante qui nous a été donnée au cours des 10 dernières années pour comprendre le rocher, Christ et le Dieu de l'Ancien Testament. Le rocher les a suivis, il ne les a pas conduits, mais Dieu n'a pas été satisfait de beaucoup d'entre eux, car ils ont été renversés dans le désert. Ce sont là nos exemples. Je suppose que j'ai répondu à la question de la poule et de l'œuf, à savoir s'ils étaient censés être des exemples pour nous ou si Dieu l'a permis pour qu'ils soient des exemples pour nous. Qu'à cela ne tienne. Restez en dehors de ce trou de lapin. Il s'agit d'exemples qui montrent que nous ne devrions pas désirer des choses mauvaises comme ils le faisaient. Verset 7. Ne soyez pas idolâtres, comme l'ont été quelques-uns d'entre eux, ainsi qu'il a été écrit. Le peuple s'assit pour manger et boire, et il se leva pour jouer. Se lever pour jouer. Ils se sont levés, ont fabriqué un veau d'or, ont dansé et adoré des idoles, puis se sont levés pour jouer. Il faut un sentiment différent pour jouer. Verset 8. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme l'ont fait certains d'entre eux, qui sont tombés en un seul jour au nombre de 320 000. 23 000 sont morts. Ne tentons pas Christ, comme quelques-uns d'entre eux l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. Nous pourrions tous dire de bien des manières, peut-être pas aussi franchement que ce qu'ont fait les Israélites, mais nous avons tous commis ces erreurs, au moins dans leur application spirituelle. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux ont murmuré et ont été détruits par le destructeur. Verset 11. Pourquoi est-ce important? Pourquoi l'Ancien Testament est-il important? Pourquoi est-il important pour vous et moi, aujourd'hui en 2023? De nous soucier de ce qui est arrivé à Israël, en regardant le jour des trompettes, leur signification, les trompettes, les sons, les bruits qui ont été faits. Les gens ne regardent pas en arrière. Nous venons de l'entendre dans le sermon. Les gens oublient l'histoire. Il ne se demande pas pourquoi Dieu nous oblige chaque année à nous souvenir de ce qui s'est passé. Dans le cas de la sortie d'Égypte, deux fois par an, pour que nous n'oublions pas. Verset 11. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple ou de modèle, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus aux extrémités du monde. De nombreuses générations ne pourront pas le faire, mais nous le ferons. Frères et sœurs, tout ce qui est arrivé à Israël devrait être considéré comme un type pour vous et moi. Qu'il s'agisse de la façon dont ils ont construit le tabernacle ou de ce qu'ils portaient, des lois, des objets, ce sont des types au sens physique pour que nous puissions en tirer des leçons spirituelles aujourd'hui. Les trompettes ont une importance considérable dans l'histoire biblique et les cérémonies qui les accompagnent, ainsi que ce type, ont beaucoup de sens. Revenons tout d'abord au Lévitique 23. Je l'ai déjà lu aujourd'hui, mais cela ne fait pas de mal de l'entendre à nouveau. Lévitique 23. Revenons en arrière. Le verset 23 se lit comme suit. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, au septième mois. » C'est là que nous en sommes. Le premier jour du mois. C'est aujourd'hui. Vous aurez un séba, un mémorial de sonnerie de trompette, une sainte convocation. Vous n'y ferez aucune œuvre servile, mais vous présenterez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Nous avons fait une offrande ce matin. Nous gardons ce jour en souvenir pour toujours. C'est nous qui regardons en arrière, qui pensons à ce qu'ils ont fait, en sortant d'Israël, en se perdant dans le désert, en apprenant à utiliser les trompettes dans un but plus important. On y a beaucoup fait allusion ce matin. C'est toujours étonnant quand on... Je travaille en face de Monsieur Hook. Il a parlé en début de semaine de ce qu'il allait prêcher, puis, comme nous avons l'habitude de le faire, lorsque vous travaillez sur un message, celui-ci change. Je lui ai dit ce que je pensais faire, et cela a changé. Nous ne savions pas que nous avions pris des directions complètement différentes, alors j'ai pensé, vous savez quoi? Peut-être devrions-nous nous mettre d'accord, hier, sur ce qu'il en était. En fin de compte, j'ai trouvé inspirant d'examiner la signification des trompettes et celle de la voix de Dieu et de voir comment ces deux éléments se rejoignent. Je pense qu'à la fin de ce message, vous verrez que c'est Dieu qui a inspiré ce chevauchement. Voilà pour le passé. Regardons vers l'avant, vers la première Thessaloniciens 4. Le livre de la Bible le plus difficile à dire, Thessaloniciens. Essayez de le dire rapidement et vous ne rirez pas. Vous n'avez qu'à vous tourner là, vous n'avez pas besoin de vous tenir debout ici et de continuer à le dire. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous commencerons au verset 15. Le verset 15 dit, « Nous vous disons, par la parole du Seigneur, que ceux qui vivent et qui restent jusqu'à l'avènement du Seigneur n'empêcheront pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu. » Nous avons regardé le début de ce qui a commencé, et puis finalement, c'est maintenant la fin du jeu, que la trompette de Dieu et les morts en Christ se lèveront en premier. Ensuite, nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est la trompette à laquelle nous aspirons. C'est la trompette que nous voulons tous entendre. Nous voulons être en mesure d'y assister en personne. C'est pourquoi il est dit, nous devons nous réconforter les uns les autres avec ces mots. Nous avons entendu ces paroles lors d'un enterrement récemment, car nous nous efforçons tous d'être prêts pour cette trompette. Nous regardons en arrière, c'est un type de trompette qui vient dans l'avenir et dont nous voulons faire partie, que nous voulons entendre. Vous entendez de la belle musique ou vos instruments, vous voulez l'entendre. Peu importe quand tous les saints sortiront de terre pour pouvoir faire partie de ces 144 000. Retournons dans le désert. Nous sommes de retour en Israël. Ils ont pris ce mauvais virage. Ils sont maintenant 40 ans à errer dans le désert. Nous allons passer en revue une grande partie de nombre 10 pour que vous puissiez revenir à nombre 10. Le chapitre 10 des nombres est l'un des passages de la Bible qui décrit le mieux l'utilisation des trompettes. Dans le reste de la parole de Dieu, les trompettes sont utilisées à différentes reprises, mais nulle part ailleurs elles ne sont décrites en détail. Je ne pense pas m'éloigner d'ici sans le passage, mais vous voudrez peut-être mettre un marqueur ici parce que nous allons en parcourir à peu près la moitié. Nombre 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi deux trompettes d'argent. Ce ne sont pas celles du chauffard, mais cela n'a pas d'importance, l'une ou l'autre peut produire les sons dont nous parlons. Faites-vous deux trompettes d'argent. Vous les ferez d'une seule pièce, afin de les utiliser pour la convocation de l'assemblée et pour le passage des camps. Les deux premiers domaines. Si vous avez lu le récent article sur les piliers, certains d'entre eux se recouperont, mais vous voyez, nous allons prendre une direction différente de celle de cet article sur les piliers. Les nombres couvrent 3, 4, peut-être 5, selon la façon dont vous les comptez, différentes utilisations de cette trompette. Elle peut être utilisée avec le chauffard, elle peut être utilisée avec la trompette d'argent. Au verset 3, on lit, « Lorsqu'on en aura sonné, c'est-à-dire au moment du rassemblement, toute l'assemblée se rassemblera à l'entrée du tabernacle, de la congrégation. Si vous pensez qu'ils se rassemblent, ils viennent devant le tabernacle de la congrégation devant Moïse, mais en fin de compte, ils viennent devant Dieu parce qu'ils viennent devant le tabernacle. Le son de la trompette a pour but d'attirer les gens vers Dieu. Toute la congrégation est censée s'avancer lorsqu'elle entend le son de la trompette qui l'attire vers Dieu. Au verset 4 du chapitre 10, s'il sonne d'une seule trompette, pas de deux trompettes, d'une seule, avec un son différent. Je suppose que les deux trompettes avaient un son un peu différent. Mais avec une trompette, on peut obtenir des sons différents selon la façon dont on en joue. Alors les chefs de milliers d'Israélites se rassembleront auprès de toi. On peut supposer que c'est devant le tabernacle. Là encore, vous pensez que Dieu serait là pour inspirer Moïse. Quel que soit le conseil, la discussion, la décision, il s'agissait soit de prendre toute l'assemblée, de l'attirer et de la faire venir devant Dieu, soit les chefs de l'assemblée ou d'Israël devant Dieu. C'est l'un des deux. Dans les deux cas, il s'agit de prendre un groupe de personnes et de les faire venir devant Dieu. Verset 5. Quand on sonnera le tocsin, le camp qui est à l'est se mettra en marche. Il s'agit de les faire bouger. Quand on sonnera de nouveau de la trompette, le camp qui est au sud partira, et on sonnera de la trompette pour le faire partir. Encore une fois, il sonne de la trompette. Il dessine devant Dieu, et cette trompette devrait être une force de guidage pour faire bouger Israël. Monsieur, je vois les analogies que vous essayez de faire ici. Je ne dessine encore rien, mais c'est tellement riche. N'oubliez pas qu'il s'agit de types pour nous. Vous ne devinerez peut-être pas du tout où nous finirons par aller. Je suis presque sûr que vous ne le ferez pas, mais vous pensez probablement déjà, oh, oh là là. Oui, cela nous attire vers Dieu. Ou tout ce qui vous vient à l'esprit, car c'est ce que ces jours saints sont censés nous permettre de faire. Ils sont censés nous permettre de regarder en arrière et de nous dire, comment cela s'applique-t-il à moi aujourd'hui? C'est le christianisme en quelques mots. Il s'agit de savoir comment ce livre écrit il y a des milliers d'années s'applique à chacun d'entre nous aujourd'hui. Comment vivons-nous ce livre et comment sommes-nous capables de faire les choses qui nous amènent à ce dernier atout? Que nous puissions l'entendre, que nous puissions être là. Nous le faisons en regardant en arrière afin de continuer à nous aider à aller de l'avant. C'était le verset 6. Et du côté du midi, ils prendront leur route, et ils sonneront l'alarme pour leur voyage. C'est un signe de mouvement. Puis, au verset 7, il y a beaucoup d'objectifs. Quand l'assemblée sera réunie, on sonnera, on ne sonnera pas. Ce qui pourrait provoquer une panique, on s'en doute. Les fils d'Aaron et les sacrificateurs sonneront des trompettes, et elles seront pour vous une ordonnance perpétuelle pendant toute votre génération. Les prêtres sonneront des trompettes. Verset 9. Si vous allez à la guerre dans votre pays contre un ennemi qui vous opprime, vous sonnerez de la trompette. Vous vous souviendrez de vous devant le Seigneur, votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. La trompette est également utilisée pour appeler Israël à la bataille, au combat, au danger qui les guette. Verset 10. Au jour de votre allégresse, à vos jours de fête et au commencement de vos mois, vous sonnerez de la trompette pour vos holocaustes et pour vos sacrifices d'action de grâce, afin qu'ils soient un mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les trompettes ont été utilisées à maintes reprises. Offrandes de paix, holocaustes, sacrifices, mémoriaux, nouvelle lune, alarmes, guerre, mouvement, rassemblement. Les trompettes ont été utilisées à maintes reprises pour faire des choses. Encore une fois, je reviens à l'article sur le pilier. Il y a plusieurs autres aspects utilisés dans la Bible que nous n'allons même pas aborder. Il s'agissait plutôt d'un instantané des nombres pour voir tout ce qu'il est possible de creuser et les analogies que l'on peut tirer d'un simple passage de 10 versets et ce que les trompettes peuvent signifier pour vous et pour moi. Cet article, ou ce que nous avons couvert jusqu'à présent, ne parlait pas des types de trompettes. Les objectifs des trompettes sont presque aussi importants, mais pas tout à fait, que les types de coups utilisés. Ces explosions ont tellement de sens que nous pouvons nous en inspirer aujourd'hui. Je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans un sermon auparavant. J'ai mon téléphone ici. Je ne vais pas téléphoner. Les ingénieurs du son vont me détester pour cela. Je vais mettre cela là pendant une seconde. Je ne les ai pas prévenus non plus. Il y a trois types de coups de trompette différents. Il y a trois modèles et trois sons différents. Chacun de ces sons, comme je l'ai dit, a un but différent. Il est censé susciter une réponse émotionnelle différente. Nous allons essayer d'en jouer quelques-unes, puis nous entrerons dans les détails de leur nature et de leur origine. Le premier est le tkin ou, je suppose, le tkin avec l'accent sur la deuxième syllabe. Laissez-moi d'abord la jouer et nous en parlerons ensuite. Voyons si cela fonctionne. C'est le tkin. Qu'est-ce que c'est? On peut presque le sentir, n'est-ce pas? Cette puissance, ce souffle, cette attention. C'est le coup de trompette qui attire l'attention ou convoque l'assemblée. Repensez à ce que nous lisons dans les nombres, car tous ces éléments s'appliquent à ces différents scénarios, mais les nombres ne les décrivent pas, et la Bible ne les décrit vraiment pas. Il faut presque remonter à la tradition juive pour comprendre quels étaient les différents sons de cymbales. Ils ont été conservés au fil du temps et se sont étendus. C'est le coup qui attire l'attention ou convoque l'assemblée. C'est un son long. Il est censé s'amplifier avant de s'adoucir. Il signifie généralement que quelque chose de très important est sur le point de se produire. C'est celui que vous entendrez souvent pour les jours saints, le jour des trompettes, les offrandes de paix. Les juifs qui le font encore aujourd'hui font exploser ce son plus que n'importe quel autre. Prenons un exemple. Lévitique 25. J'ai dû m'inscrire à YouTube Premium aujourd'hui parce que j'étais en train de tester cela et j'ai joué l'un d'entre eux, puis une publicité est apparue. Je me suis rendu compte qu'une période d'essai de 7 jours de YouTube Premium valait bien le coup. C'est pourquoi il faut tout tester. Lévitique 25, le verset 9. Le verset 9 du Lévitique 25 se lit comme suit. Vous ferez sonner la trompette du jubilé le dixième jour du septième mois, et le jour des expiations, vous ferez retentir la trompette dans tout le pays. C'est le son que vous venez d'entendre. Repassons-le pour que vous l'entendiez. Ce son. Où est-il ici? Recommençons. Coup de trompette. Il a attiré l'attention d'Israël. Ils se sont levés. Ils ont prêté attention. Ils ont réfléchi. Ils savaient que quelque chose se passait. Allons-nous de l'avant? Est-ce que nous nous rassemblons? Que devons-nous faire? Pourquoi ont-ils choisi ce son? Pourquoi Israël a-t-il dit que de longues et puissantes détonations attirent notre attention? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Si vous pensez aux trompettistes d'aujourd'hui, il arrive souvent qu'ils ne jouent pas cette longue note et que plusieurs des autres ne le fassent pas. Revenons à Exode 19. Trouvons-en l'origine. Exode, chapitre 19 et verset 16. Nous commencerons au verset 16 de l'Exode 19. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette extrêmement fort, de sorte que tout le peuple du camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de l'Éternel, ou de Dieu. Ils se tinrent sur l'autre partie de la montagne, c'est-à-dire tout autour, de part et d'autre. La montagne du Sinaï était toute en fumée, on aurait dit qu'elle était en feu, car le Seigneur descendit sur elle dans le feu, et sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla fortement. Le son de la trompette se prolongea et devint de plus en plus fort. Moïse parla, et Dieu lui répondit par la voix. Cette voix longue et puissante de la trompette. C'est un son surnaturel que nous avons ici. Il n'avait pas d'instrument. Il venait de sortir d'Égypte. Ils ont entendu cette explosion, cette voix de trompette, qui a produit un son fort et fort. Pouvez-vous imaginer à quel point tout le monde aurait été attentif? La montagne tremblait, il y avait du feu, et puis soudain ce coup de trompette qui devenait de plus en plus fort jusqu'au moment où Moïse a parlé et s'est entretenu avec Dieu. Au verset 20, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse y monta. C'est le début de l'effondrement. Moïse est parti. Il n'avait pas de chef, et les choses ont commencé à se gâter très, très rapidement. Imaginez ce moment, car il y avait d'autres trompettes. Au début du verset, on entend la voix d'une trompette extrêmement forte. C'était presque assourdissant, mais ce n'était pas comparable à la voix de la trompette qui était si forte et si longue et qui devenait de plus en plus forte. Les gens ont eu peur. Bien sûr, ils avaient peur. C'est pourquoi ils ont dit, « Non, nous ne voulons pas parler à Dieu, Moïse, c'est toi qui parles à Dieu. » Parce que ce qu'ils venaient de vivre ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu. On peut imaginer qu'ils se sont mis les mains sur les oreilles en se disant « Qu'est-ce qui se passe ?» À ce moment-là, on peut imaginer que Dieu avait l'attention de tout le monde. Ils étaient concentrés. Ils réfléchissaient. Puis, avec le temps, c'est devenu le son de la trompette pour attirer l'attention. Frères et sœurs, vous et moi avons parfois besoin de cela. N'est-ce pas ? Il y a des moments où nous marchons dans notre vie et où l'agitation de ce que nous avons à faire, l'école, le travail, la famille, quoi que ce soit, commence à surplomber les choses qui garantissent que nous sommes à cette dernière trompette. Nous ne prions pas, nous n'étudions pas, nous ne jeûnons pas, nous ne méditons pas, nous n'exerçons pas l'Esprit de Dieu, nous n'utilisons pas les outils parce que nous sommes distraits. Parfois, Dieu a besoin d'attirer notre attention. Allez à Ésaïe 51. Imaginez que lorsqu'il veut attirer notre attention, nous entendions un coup de trompette. Ce serait trop facile, n'est-ce pas? Si vous vivez votre vie et que vous êtes sur le point de commettre un péché, quel qu'il soit, vous allez voler une barre chocolatée. Comme, j'ai vraiment besoin de cette barre chocolatée, son de trompette. Rire. Nous ne pécherions pas. Chaque fois que nous nous tournons vers quelque chose, nous recevons cette décharge et nous nous disons, oh, oui. Désolé, mon Dieu. Ce n'est pas comme cela que cela marche aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce serait tellement plus facile si c'était le cas. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui recherchez la justice. C'est ce que Dieu veut. Vous qui cherchez l'Éternel, regardez sous le rocher où l'on vous a taillé, et dans le trou de la fosse où l'on vous a creusé. Regardez vers Abraham, votre père, et vers Sarah, qui vous a enfanté. Car je l'ai appelé seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Car le Seigneur réconfortera Sion en regardant vers l'avenir. Il réconfortera toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à l'Éden et son désert au jardin de l'Éternel. On y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâce au son de la mélodie. Écoutez-moi, écoutez, entendez le son de ma trompette, mon peuple, prêtez-moi l'oreille. Prêtez-moi l'oreille. Dieu dit que nous pouvons l'entendre sonner. Nous pouvons l'entendre essayer d'attirer notre attention, même s'il n'y a pas de trompette. Prêtez-moi l'oreille, ô mon peuple, car une loi sortira de moi, et je ferai reposer le jugement sur la lumière du peuple. Tout au long de la Bible, Dieu nous dit de l'écouter. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le message se chevauchait étonnamment ce matin? Nous devons écouter sa voix. Lorsque Dieu nous donne un coup de sa voix pour attirer notre attention, pour nous aider à nous remettre sur la bonne voie, ce n'est pas un coup de trompette. Ce n'est pas une voix réelle. C'est l'Esprit de Dieu en chacun de nous ou qui travaille avec nous si vous n'êtes pas encore baptisé. Peu importe, Dieu peut attirer notre attention. Il peut créer l'univers entier. Certaines personnes sont frustrées ou découragées, surtout si elles sont plus jeunes ou n'ont pas été baptisées, et elles se disent « Oh, mais l'Esprit de Dieu ne travaille qu'avec moi, il n'est pas encore en moi. Il n'est pas encore en moi. » Cela vous empêchera de naître dans la famille de Dieu, juste. Il a créé l'univers. Si l'Esprit de Dieu travaille avec vous et vous pousse vers l'endroit où vous serez prêt pour le baptême, que vous soyez jeune ou vieux, membre potentiel, adolescent, peu importe, il peut vous pousser là où il veut si, tout comme la personne baptisée avec l'Esprit en elle, nous l'écoutons. Nous écoutons sa voix. Nous écoutons le son de sa trompette pour attirer notre attention, car on ne sonne pas de la trompette. On ne klaxonne pas quand on roule dans la rue. S'il y a quelqu'un devant vous, vous ne devez pas le faire. Si vous roulez dans la rue, que la vitesse est limitée à 35 km/h et que la personne qui vous précède roule à 30 km/h, vous pouvez y penser, mais vous n'allez pas faire bruit de klaxon, parce qu'elle roule un peu moins vite que vous. Peut-être qu'il roule à 38 et qu'il vous dépasse alors que vous roulez à 35 parce que vous suivez exactement la vitesse et qu'il vous dépasse à 38. Nous ne le faisons pas, mais si un camion est sur le point de se garer devant nous, nous klaxonnons. Nous klaxonnons pour attirer l'attention de tout le monde. Frères et sœurs, si Dieu doit aller aussi loin, nous sommes sur la bonne voie. S'il doit utiliser ce coup de klaxon pour attirer notre attention, c'est que nous sommes déjà dans une situation très dangereuse. Nous avons l'avantage d'avoir l'Esprit de Dieu capable de nous pousser si nous écoutons. Si nous entendons cette petite voix tranquille, elle doit être comme une trompette pour nous lorsque nous sentons l'inconfort de l'Esprit de Dieu qui nous pousse dans une direction opposée à ce que nous savons que nous ne devrions pas faire. Nous le savons toujours. Il y en a peut-être quelques-uns, mais il est rare que l'on se dise « Oh, oh là là, c'était un péché accidentel. Je n'avais pas l'intention de faire cela. » Oups. Bien sûr, nous ne voulions pas. Reprenons l'exemple de la barre chocolatée, en marchant et en l'attrapant, « Oh, regardez-moi cela. Qu'est-ce qui m'a pris ?» J'ai pris cette barre chocolatée dans le magasin et je l'ai volée. Nous ne péchons pas accidentellement. C'est là que l'Esprit de Dieu peut continuer à attirer notre attention et à nous concentrer. Ce long souffle est destiné à attirer notre attention. Ils l'ont utilisé pendant des milliers d'années, mais il avait aussi un autre but. Vous l'avez entendu dans les nombres. C'était aussi un appel au rassemblement. Allons au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Il voulait les amener devant le tabernacle avant Moïse lorsqu'ils ont entendu cela. Lorsqu'ils l'entendaient, ils allaient devant le tabernacle, sonnerie de trompette, ce qui les attirait et les rassemblait. Imaginez si nous avions cela aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Aujourd'hui, Dieu agit par l'intermédiaire de son esprit de manière beaucoup plus subtile, ce qui exige de nous que nous soyons beaucoup plus à l'écoute. Imaginez que ce soit le sabbat et que vous viviez, comme beaucoup d'entre nous, à quelques minutes de là. Il y a 10 minutes, vous avez reçu un avertissement de 10 minutes que les services allaient commencer et à travers Wattsworth. Ce qui se passe le matin à midi ici, où c'est. Si nous recevions ce aller au service et une grande explosion, pas un seul d'entre nous ne manquerait le service. En plus d'avoir l'impression d'être fou parce que nous nous joignons à une église qui fait des explosions dans toute Wattsworth. Nous sommes probablement reconnaissants de ne pas faire cela aujourd'hui et de ne pas avoir à faire d'explosion sur le campus. Imaginez cela chaque sabbat. Qui manquerait les offices si nous étions attirés ou appelés à l'assemblée paragraphe une explosion? Bien sûr que non. Nous ne pourrions pas oublier. C'est pour cela qu'on met des alarmes, c'est pour cela qu'on fait tout ce qu'on fait pour ne pas oublier. Dans Hébreux 10, vous êtes probablement déjà au verset 22. Le verset 22 dit, « Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, ayant le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de foi, sans faiblir, car il est fidèle à ce qu'il a promis. Examinons-nous les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger l'assemblée, comme le font certains, mais en nous exhortant les uns les autres, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. De nos jours, les gens sautent les offices. Le peuple de Dieu dans le monde entier, qu'il soit rétabli ou qu'il se divise, s'absente parce qu'il n'entend pas d'explosion, car ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Pour forger le caractère, vous et moi ne pouvons pas être effrayés par le christianisme. Cela ne marche pas. Lorsque vous avez entendu pour la première fois ce qui allait arriver au monde, cela vous a peut-être effrayé pour que vous y prêtiez attention, mais on ne peut pas nous effrayer pour que nous devenions chrétiens, pour que nous obéissions à Dieu. Nous craignons Dieu. Il est tout-puissant et nous savons qu'il voit tout ce que nous faisons, mais il travaille désormais d'une manière différente. Nous devons nous encourager les uns les autres à nous rassembler. À bien des égards, Nous nous faisons entendre les uns les autres lors de ces appels au rassemblement. Nous nous encourageons mutuellement. Nous créons un environnement qui nous incite à nous rassembler encore plus à l'approche du jour J. Nous pourrions dire que vous et moi avons besoin d'être ensemble. On pourrait dire que vous et moi devons être un peu comme des trompettes l'un pour l'autre. Aidez-vous les uns les autres à vous rassembler pour l'assemblée. Matthieu 18. Rappelez-vous quand ils ont appelé devant le tabernacle, ce qui les a amenés devant Moïse. On pourrait dire leur ministre. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela sera fait par le Père qui est aux cieux. Pourquoi ? Verset 24. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Dieu est là, et c'est une image différente maintenant que nous comprenons l'étendue, la taille, les ailes et toutes les choses étonnantes que nous avons apprises sur la nature de Dieu. Nous sommes deux ou trois, Dieu est là. Tout comme dans l'ancien Israël lorsque la trompette a retenti, aujourd'hui cette trompette retentit pour nous rassembler à nouveau devant Dieu. C'est la même chose. Rappelez-vous, ils sont nos types, ils sont des exemples. Nous pouvons regarder en arrière et dire, « Oh là là, c'est ce qu'ils faisaient. » Ils sont venus avant Moïse, avant le ministre. Je suis ici en train de prêcher, mais je sais que les paroles de Dieu seront utilisées et je peux savoir que Dieu inspirera ce que je dis, tout comme n'importe quel autre orateur. Dieu est présent dans nos conversations lorsque nous déjeunons, car c'est ce qui se passe lorsque deux ou trois personnes sont réunies. Sans parler d'une congrégation. Sans parler, à l'avenir, d'une nation entière. Imaginez cela. C'est le premier son. Le deuxième son qu'ils émettent s'appelle le Shevarim. Je suis heureux qu'il n'y ait pas d'hébreu dans l'assistance. Voyons si celui-ci fonctionne aussi bien. Il y a de belles versions de ce son. Si vous vous renseignez sur ce sujet, sachez que les personnes qui connaissent bien le chauffe peuvent le faire sonner, et ce son est censé ressembler à un son de pleurs. C'est un son déprimé qui est censé vous tirer vers le bas. Il s'agit de ces trois sons courts. Il est censé ressembler à un sanglot ou à un soupir. Vous pouvez l'entendre dans le son. Rejouez-le pour vous. Je devrais arrêter de chanter « Allez, venez ». Son de trompette. Ce son grave. Son de trompette. Depuis des millénaires, ce son est considéré comme un appel à la repentance, aux erreurs, aux fautes et à l'expression de la tristesse. Vous ne trouverez pas cela directement dans la Bible, mais n'oubliez pas que la nation est un exemple de ce que nous pouvons apprendre. Ils font cela depuis des millénaires. Ils remontent jusqu'à la nuit des temps. Ils transmettent ce son. Si vous êtes un joueur très doué, vous pouvez vraiment le faire sonner déprimé. Allez à Ézéchiel 18. Tout au long de la Bible, lorsque l'on parle du son des offrandes ou d'autres instruments, on constate qu'il y a une intensité, qu'il joue ce son. Nous lisons la Bible et nous voyons des trompettes. Ils font sonner des trompettes. C'est tout ce que vous pensez. Un grand coup de trompette. Il y a tellement plus que ces trompettes et ce qu'ils en font. Encore une fois, ils peuvent le faire avec des chauffards, ils peuvent le faire avec des trompettes en cuivre. Ézéchiel 18, vous y êtes probablement. Verset 30. C'est parce que Dieu veut quoi ? Rappelez-vous, la première chose est de nous attirer à lui, de nous rassembler pour être devant lui, d'attirer notre attention. Ici, au verset 30, on peut lire, « C'est pourquoi je vous jugerai, maison d'Israël. Chacun selon ses voies, ce que vous avez fait individuellement, dit le Seigneur Dieu. Repentez-vous et revenez de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne soit pas votre ruine. Changez. Repentez-vous. Retournez. Verset 31. Rejetez toutes les transgressions que vous avez commises, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi voulez-vous mourir? Je veux que vous changiez. Nous pouvons tous nous entraider et dire. Cela semble spectaculaire, n'est-ce pas? Si vous vous tournez vers votre frère, votre sœur en Christ, et que vous leur dites, s'ils pêchent, pourquoi veux-tu mourir? C'est ce qui se passe. Dieu l'a dit à Israël. Lorsque nous entendons ce son, nous devons penser, non, je dois changer. Je dois me repentir. Je dois me retourner. Je ne veux pas mourir. Je veux faire ce qu'il faut. Parce que nous péchons tous. C'est quelque chose qui arrive quand on est humain. À un moment donné, nous devons, dans notre esprit, nous présenter devant Dieu avec une trompette différente de celle que nous utiliserions si nous étions simplement audacieux. Dieu, aide-moi à trouver un nouvel emploi ou Dieu, je veux être capable de faire ceci ou cela. Non, le son est différent lorsque vous et moi nous présentons devant Dieu dans la repentance, dans l'humilité que nous devons avoir, dans la contrariété. Un exemple d'attente, d'accord, Dieu, je suis un être humain. Vous savez que vous nous avez créés. Nous sommes brisés, nous sommes faibles. Parce que si nous ne supplions pas Dieu, cela finira par nous briser. La repentance consiste à se détourner des choses que nous avons faites. Il serait intéressant d'entendre ce premier coup de trompette avant le second, parce que c'est souvent lorsque nous nous égarons et que nous commençons à perdre de vue notre objectif et notre destination que Dieu doit faire retentir quelque chose dans notre vie, soit par une épreuve, soit par un test, soit par quelqu'un qui nous aide, notre ministre qui nous aide à revenir là où nous devrions être. Et alors nous nous présentons devant Dieu avec une trompette d'un autre genre. Devant son trône, nous disons, « Dieu, non, j'ai fait une erreur. Je dois me remettre sur la bonne voie. Merci de m'avoir remis les idées en place, d'avoir attiré mon attention, de m'avoir appelé devant vous. » Frères et sœurs, ce jour des trompettes n'est pas seulement un grand et énorme son, c'est notre marche chrétienne et ce qu'elle signifie à travers ces trompettes et ces nombres et pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi les Juifs ont transmis ces sons de trompettes depuis des générations après des générations après des générations. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Allez à Joël. Joël, chapitre 2. Joël chapitre 2. Tout le monde va avoir une chance. Tout le monde aura une chance de se repentir. Pas seulement nous. Nous ne sommes que le premier groupe. Verset 11. L'Éternel fera entendre sa voix devant son armée, car son camp est très grand, et il est fort, celui qui exécute la parole, car le jour de l'Éternel est grand et terrible. Car le jour du Seigneur est grand et terrible. Qui le supportera? Le jour de l'Éternel. C'est pourquoi, et maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des deuils. Repentez-vous. Rendez votre cœur, et non vos vêtements. C'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Non, Dieu se préoccupe de nos cœurs. Il veut que les mondes changent de cœur. Pleurer, se lamenter, déchirer son cœur, pas son vêtement. Revenez à l'Éternel, car il est bon et miséricordieux, lent à la colère, d'une grande bonté, et il se repent du mal. Dieu reviendra. Dieu se repentira si nous nous repentons. Allons au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je suis toujours étonné que les gens séparent l'Ancien et le Nouveau Testament alors qu'ils ne font que reprendre ou construire l'un sur l'autre. En général, le Nouveau s'appuie sur l'Ancien, mais les gens les écartent en pensant qu'il s'agit d'un Dieu différent. C'est stupéfiant. Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 34. Le verset 34 d'acte 2. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait de ce même Jésus, que vous avez crucifié, à la fois le Seigneur et Christ. En entendant cela, ils furent frappés au cœur, tous ceux qui se trouvaient dans les environs. Cela signifie « piquer au vif ». Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que devons-nous faire ? Pierre cita Ézéchiel et dit « Repentez-vous, dans ce cas, le Nouveau Testament, soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est la même chose. Se repentir et se transformer ou se repentir et être baptisé. Le monde entier va avoir une opportunité. Vous et moi l'avons eue. En profitons-nous? Utilisons-nous les jours des trompettes? Utilisons-nous les jours saints, les sabbats, les périodes intermédiaires, pour profiter du fait que nous sommes les premiers à le faire? Allons-nous devant Dieu avec la trompette de la repentance? Où avons-nous besoin qu'il sonne pour attirer notre attention? Où avons-nous besoin d'une corne de brume pour venir au service du sabbat? Ce n'est pas le cas. Nous devrions avoir l'Esprit de Dieu en nous, nous poussant à faire ce qu'il faut. Excusez-moi. Ancien et Nouveau Testament, c'est le même plan. Dieu veut que les gens se repentent et se convertissent. Il veut qu'il se présente devant lui avec ce son plus triste. La trompette n'est en fait que l'instrument de plusieurs voix. Ce n'est pas seulement Dieu qui est la trompette. Ce n'est pas le trompettiste qui est la trompette. Ce n'est pas seulement moi qui suis la trompette. Nous agissons tous, de différentes manières, comme des trompettes dans notre façon de faire, de vivre, de nous aider et de nous soutenir les uns les autres. Le jour des trompettes est un jour où nous sommes tous prêts pour la trompette finale, où nous sommes capables de le faire et où nous nous tenons là pour l'entendre. Passons au Nouveau Testament. Comme je l'ai appris, le livre néerlandais de la Bible est Jacques. Livre de Jacques, chapitre 4. J'aime bien Jacques, c'est assez drôle. Il a tendance à être direct et à dire ce qu'il dit. C'est à prendre ou à laisser. Jacques, chapitre 4 et verset 7. Le verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'éloignera de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, doubles d'esprit. Soyez affligés, jeûnez, et pleurez, et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Comment entrer dans le champ de vision du Seigneur si nous ne sommes pas prêts à nous présenter devant Dieu, à faire les choses que nous faisons, à venir au service du sabbat? Nous nous présentons devant Dieu dans la prière, puis nous jouons de la trompette. Ce sont vos lèvres. Vous parlez. Ce n'est pas une trompette. Vous et moi sommes la voix de la trompette qui nous permet de dire ce que nous disons. Ce n'est pas la voix de Dieu, bien sûr, mais nous soufflons de différentes manières pour nous faire avancer, dans ce cas, vers la repentance. D'accord, voici le troisième. Le troisième ici. Voyons si je peux le dire correctement et le jouer correctement. C'est la torue. Torue. D'accord. Son de trompette. Il s'agit, comme vous l'avez entendu, de neuf coups rapides en staccato, généralement interprétés comme un cri de guerre ou une alarme. C'est ce qu'on aurait joué lorsqu'on a dit le cri de guerre. Il ne s'agit pas d'un long son. Ce son est le son d'alarme ou le son de guerre. Revenons au nombre. Nous allons le regarder ici à titre d'exemple. Nombre, chapitre 10. Même endroit. Nous l'avons déjà lu. Nous pourrions probablement le lire, mais nous avons le temps. Chapitre 10 des Nombres, et nous lirons un seul verset, le verset 9. Nombre 10, verset 9. Si vous allez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous opprime, vous sonnerez de la trompette. Ils sonnent donc l'alarme avec leur trompette. Il ne s'agit pas d'une seule et longue sonnerie. C'est un son différent. Son de trompette. C'est une alarme, une explosion de guerre. Une alarme. Son de trompette. C'est un son différent, n'est-ce pas? Avez-vous déjà imaginé autant de bruits différents le jour des trompettes dans le récit de Nombre 10? Tant de sons différents. Il ne s'agit pas seulement d'une explosion. Ce n'est pas seulement le chauffeur. Ce n'est pas seulement l'instrument d'argent. Dieu a utilisé différentes tonalités pour attirer l'attention des gens de différentes manières, parce que c'est logique. Je me disais, comment les gens savaient-ils quels sons correspondaient à quoi? Quand ils se disaient, bon, cela ressemble un peu à la guerre. Mais voulait-il seulement que nous montions au tabernacle? Dois-je prendre mon épée? Allons-nous vers le sud? Il est évident qu'ils ont dû faire en sorte que ce soit suffisamment facile à comprendre. Ce faisant, vous et moi devons comprendre de la même manière. Dieu utilise des sons différents pour attirer notre attention. Des sons différents pour que nous nous concentrions sur des choses différentes. Le jour des trompettes n'est pas seulement un jour de grand bruit. Ces coups, les trompettes, sont forts. Extrêmement fortes, comme elles sont décrites. Mais Dieu utilisera un son différent dans nos vies lorsqu'il donnera l'alarme ou que nous serons appelés au combat. Parce que c'est le cas. Nous sommes appelés à faire les deux. Allez à Apocalypse 8. Il y a un temps qui arrive et qui va devenir très, très sérieux. Vous n'y avez peut-être jamais pensé de cette façon. Et vous ne le savez pas exactement parce que les Juifs ont transmis cela au fil du temps, mais c'est juste un peu de spéculation. Apocalypse, chapitre 8, verset 6. Vous connaissez ce passage, mais il se peut que vous l'écoutiez différemment ou que vous le lisiez différemment dans votre esprit, ou que vous l'entendiez dans votre esprit. Apocalypse 8, verset 6. Les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Ils s'apprêtent donc à lancer un avertissement sur ce qui va se passer. Avez-vous déjà imaginé ce que nous venons d'entendre? Bien sûr. Je spécule un peu parce que la Bible ne dit pas exactement ce que sont les sons. Mais ces sons ont été transmis de génération en génération. Mais est-ce que les anges soufflent comme cela? Pas un seul gros coup. Mais imaginez sept d'entre eux. Le feraient-ils exactement en même temps? En frappant tous exactement de la même manière? Ils sont capables d'accompagner et de jouer les sons pour attirer l'attention de tout le monde. Son de trompette. Imaginez la terreur si les gens sont au courant. Son de trompette. Ce que j'ai sur mon téléphone me semble agréable. Mais si sept anges sont sur le point d'exploser avec cette trompette pour avertir le monde de ce qui va se passer, très, très bientôt, ce n'est pas si agréable. Ce ne sera pas si réconfortant. Revenons à Joël, chapitre 2, première partie. Encore une fois, la trompette. Ce son particulier est utilisé pour l'alarme ou l'appel au combat. C'est un peu le plus facile. Mais nous pensons toujours aux trompettes comme à la guerre, à l'explosion, au son, à l'alarme. Pas le plus subtil, le plus détaillé, les différents aspects. Probablement dans Joël 2. Il y en a un autre. Imaginez le même son. Verset 1. Ce n'est de la trompette en Sion, ce n'est de l'alarme sur ma montagne sainte. Que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel arrive. Car il est proche. Est-ce que c'est le coup que nous entendons? Ou s'agit-il d'une seule et même explosion? Imaginez la peur. Nous le saurons à ce moment-là. Nous serons dans la famille de Dieu, alors nous saurons à quoi ressemblera cette explosion. Nous saurons comment Dieu va utiliser cet instrument. Dieu a créé l'instrument pour qu'on puisse en jouer. C'est intéressant. Ce n'est pas un instrument comme les autres. Il est souvent difficile de jouer des notes sur une trompette si l'on n'a pas les pistons. C'est un travail de bouche. C'est très difficile. Quelqu'un m'a dit que Louis Armstrong avait une déformation permanente de sa lèvre inférieure à force de jouer de la trompette, parce que c'est tellement intense dans le corps. Il serait donc logique d'activer et de désactiver le son, pour pouvoir séparer ces différents bruits. Mais le pire moment de tous les temps va être introduit par les trompettes. Frères et sœurs, ce jour n'a pas la signification de l'accomplissement que nous espérions. Ce jour a beaucoup plus à offrir. La parole de Dieu ne cesse de le répéter. Il se répète encore et encore tout au long des milliers d'années à venir. Et, bien sûr, Dieu continuera à utiliser les trompettes au cours des éons et des éons qui suivront. Les trompettes sont importantes parce que c'est l'outil que Dieu utilise pour une multitude de raisons. Et lorsque nous regardons l'ancien Israël, la façon dont il l'utilisait à l'époque, cela nous permet d'avoir un meilleur concept de ce que nous allons voir lorsque nous allons de l'avant, lorsque nous regardons l'avenir de ce qui va venir. Car cette trompette va continuer à sonner. Elle viendra au jour du Seigneur. Elle viendra au début du royaume. Elle viendra quand Élie. Encore et encore, Dieu va utiliser des trompettes. Jusqu'à la dernière trompette. Mais pensez-vous vraiment que c'est la dernière trompette? Quand tous les morts ressuscitent et que, soudain, c'est la dernière trompette. Pouf, toutes les trompettes disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est la dernière trompette, et c'est l'accomplissement. Vous pouvez imaginer que Dieu continuera à être capable d'utiliser la communication qui est percée. Vous allez dehors, si vous avez quelqu'un qui sait vraiment comment utiliser un clairon ou une trompette, il souffle à des kilomètres. Vous pouvez l'entendre. Mais il sera utilisé pour avertir. Mais encore une fois, l'autre partie de ce son est l'appel au combat. Alors que nous commençons à conclure, c'est vraiment à cela que se résument les trompettes pour vous et moi, quel que soit le temps qu'il nous reste. Cette marche n'est pas facile. Elle n'est pas toujours amusante. Nous passons à côté de certaines choses que les gens font. Nous ne pouvons pas nécessairement participer à toutes les activités. Si vous êtes à l'école, si vous êtes. Quel que soit le cas. Mais voici la nouvelle. Si vous n'étiez pas dans l'église, vous ne participeriez toujours pas à toutes les activités que vous voudriez faire parce que tout le monde ne peut pas faire grand-chose. L'herbe est toujours plus verte. Mais Dieu a dit clairement que la marche chrétienne n'est pas facile. C'est pourquoi il la compare à une guerre. C'est pourquoi il nous compare à des gens qui doivent mener une bataille. C'est pourquoi les trompettes représentent cet appel à la guerre. Si vous êtes dans l'armée d'élite, vous n'avez pas la possibilité de vous amuser comme tout le monde. Vous vous entraînez. Vous travaillez. Vous êtes préparés à quelque chose d'unique. Frères et sœurs, Vous et moi travaillons, nous nous entraînons et nous nous préparons à quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'humanité et qui ne se reproduira jamais. Il n'y aura jamais 144 000 êtres humains convertis en êtres divins au début d'un plan que Dieu a conçu et qui durera toute l'éternité. Ce à quoi vous et moi avons l'occasion de participer est bien plus qu'un marine ou un membre des opérations spéciales s'entraînant à tuer quelqu'un. Non, c'est tout le contraire. Nous nous entraînons et travaillons dur pour pouvoir apporter quelque chose de vivant aux gens. C'est pourquoi, lorsque vous avez l'impression que c'est difficile ou que vous manquez quelque chose, ne vous dites pas que non, concentrez-vous sur cette chose. Concentrez-vous sur le jour des trompettes et sur ce que signifie le fait que j'ai été appelé au combat. J'ai été appelé à la guerre. C'est le cas de chacun d'entre nous. Lorsque vous entendez ce son, jouez-le. Allez les chercher par vous-même et, parfois, dites-vous simplement, « Bon, vous savez quoi ? Je vais écouter ces trompettes parce que j'ai besoin qu'on me rappelle pourquoi je fais cela, ce que cela signifie pour Dieu d'attirer mon attention. » Appel à l'assemblée, repentance, capacité à appeler à la guerre, alarme. Cela changera votre regard sur la signification de ce jour. Ce n'est pas seulement le jour où nous chantons un hymne et où quelqu'un joue de la trompette. C'est magnifique quand cela arrive. C'est formidable quand nous sommes capables de le faire, mais le jour des trompettes a tellement plus de sens que le simple instrument. Allons au chapitre 6 de Josué. Josué, chapitre 6. Nous commencerons au verset 20. Quelques versets seulement. Nous parlons donc de la bataille. Josué 6 et le verset 20. Le peuple poussa des cris lorsque le sacrificateur sonna des trompettes. Quels sont, pensez-vous, qu'ils ont utilisés ? Ils étaient prêts à charger, et il arriva que lorsque le peuple entendit le son de la trompette et que le peuple poussa un grand cri, il s'agit ici des murs de Jéricho, le mur s'écroula. Ce n'était pas un son de repentance. Ce n'était pas un son de rassemblement. Non, c'était un son de guerre. Vous pouvez imaginer ces trompettes en train de la jouer. Laissez-moi recommencer. Imaginez ceci, vous êtes là, vous attendez. Son de trompette. Il peut y en avoir des dizaines, tous en train de jouer. Son de trompette. Puis les murs sont tombés parce que c'était la bataille. Ils sont tombés à plat. Le peuple monta dans la ville, cela ne l'a pas arrêté. Ce n'était pas seulement cela. Montèrent dans la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils dévoyèrent par interdit tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, bœufs, brebis et ânes, au fil de l'épée. Nous devons considérer notre vie de la même manière. Nous ne portons pas d'épée, mais nous en portons si l'on se réfère à la Bible. Nous devons être capables de nous défendre dans toutes les situations où nous nous trouvons. Ils avaient des armures. Ils travaillaient sur des choses. Ils se sont entraînés. Ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils écoutaient Dieu. Ils se sont présentés et ont suivi les instructions qui leur ont été données. Ils ont obéi. Dans ce cas, ils ne se sont pas égarés et n'ont pas eu besoin de cette alarme ou de ce son qui attire l'attention. Non, ils étaient prêts pour la bataille parce qu'ils s'étaient entraînés. Le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens est un passage familier. Éphésiens, chapitre 6. Et nous commencerons au verset 13. Vous connaissez ce passage, c'est l'armure de Dieu, mais elle est adaptée ici. C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu. Nous sommes des soldats. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, en faisant tout pour rester debout. Nous nous sommes entraînés, nous nous sommes limités. Nous nous sommes concentrés sur le royaume. Nous avons servi, aidé, obéi, prié, étudié et fait toutes les choses qui nous aideraient à rester debout. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, ayant la cuirasse de la justice et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nous avons une épée, nous avons une armure, mais si vous prenez une personne qui va être dans l'armée et que vous lui dites « D'accord, vous n'avez pas reçu d'entraînement, vous n'avez pas travaillé du tout, voici votre armure » et qu'elle l'enfile, elle va quand même mourir. Si vous ne savez pas comment utiliser votre armure ou votre arme, vous vous dites simplement « Je vais au combat. Je suis prêt à partir. J'ai l'armure. Mort. » Si vous et moi ne travaillons pas encore et encore à faire ce qui nous permet de porter cette armure correctement, si nous ne sommes pas formés à son utilisation, nous ne survivrons pas non plus. Nous ne passerons pas la bataille. Nous y parviendrons peut-être, mais il pourrait s'agir de batailles dans notre vie, d'épreuves qui nous attendent. Peu importe ce que c'est. Nous devons continuer à nous entraîner. Nous sommes appelés à nous battre. Passons au chapitre 2 des Proverbes. Excusez-moi. Proverbes, chapitre 2. Mais nous devons écouter les trompettes quand nous les entendons. N'oubliez pas que nous n'avons pas l'avantage de ce que je joue pour vous aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu. C'est son Esprit en nous qui travaille avec nous, qui nous pousse, qui nous incite, qui nous aide à aller dans la direction où nous sommes censés aller. Nous ne bénéficions pas des images de ce jour avec ses explosions et ses sons. Peu importe le son qu'ils émettent ou les instruments qui utilisent un chauffe-feu ou de l'argent, c'est fort. L'Esprit de Dieu ne fait pas cela avec nous. Nous devons donc accorder nos oreilles d'une manière différente. Nous devons être capables d'écouter. Si vous le pouvez, pensez-y de cette façon, votre oreille sur le sol. Si vous êtes déjà allé à un chemin de fer et que vous saviez qu'il allait arriver, mettez votre oreille sur les rails. Quelqu'un a déjà essayé cela ? Oui, vous ne le faites pas très longtemps, mais vous pouvez entendre ce grondement à distance. Si vous faites régler votre oreille et que vous l'écoutez attentivement, si vous entraînez votre oreille à entendre, vous pouvez entendre des choses que vous n'entendriez pas normalement. Si nous faisons taire tout ce qui nous entoure, nous restons concentrés. Il existe des pièces si silencieuses qu'elles servent à tester divers équipements, mais elles sont si silencieuses que si vous y passez du temps, vos oreilles se réajustent et amplifient leur. Je suppose qu'elles augmentent leur gain, si vous voulez. Je suppose qu'elles augmentent leur gain, si vous voulez, et vous entendez votre sang couler dans vos veines. Vous pouvez entendre parce que vos oreilles s'accordent tellement avec ce silence qu'elles captent n'importe quoi. Nos oreilles peuvent faire la même chose avec l'Esprit de Dieu qui nous pousse si nous sommes à l'écoute de Dieu, de sa voix, de son Esprit, et si nous l'écoutons. Nous n'avons pas besoin du son des trompettes. Nous n'avons pas besoin de ces sons forts parce que nous essayons soigneusement d'entendre Dieu. Cela changera quand nous deviendrons plus forts, quand nous vivrons plus longtemps dans la foi, nous pourrons y être plus sensibles. Êtes-vous dans les proverbes, car qu'est-ce que Dieu va nous donner ? Il nous donnera la capacité d'être sage, de discerner. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes mes commandements avec toi, gardez-les près de vous, afin d'incliner ton oreille vers la sagesse. Vous écoutez. Vous mettez cette oreille sur la voie ferrée. Et que vous appliquez votre cœur à l'intelligence. Si vous cherchez la connaissance, élevez votre voix pour obtenir l'intelligence. Prière, Dieu, aide-moi à faire ce que je dois faire. Si vous recherchez sa sagesse comme de l'argent et si vous la cherchez comme un trésor caché, nous la recherchons. La sagesse ultime vient de Dieu. Il nous donne la sagesse. C'est ce que les trompettes que vous et moi devrions écouter. C'est beau ce que nous pouvons entendre et imaginer et connaître historiquement et ces types, mais lorsque vous passez au Nouveau Testament, ce qu'il est aujourd'hui avec l'Esprit de Dieu, non, nous devons écouter. Les trompettes de Dieu, si vous voulez, sont beaucoup plus silencieuses maintenant. Allez à Hébreux 4. Hébreux, chapitre 4. Nous commencerons au verset 9. Hébreux 4, 9. Il reste. Verset 9. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu, en le gardant comme un sabbat. Car celui qui est entré dans son repos s'est aussi reposé de ses propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. La semaine de la création. Travaillons donc. Le travail. Ce n'est pas facile. Nous sommes des soldats, souvenez-vous, nous sommes appelés à la guerre. Pour entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans l'incrédulité, selon le même exemple. Car la parole de Dieu est rapide, puissante et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle la transperce de part en part, des articulations et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Les choses discrètes, que personne d'autre ne peut voir ou entendre. Dieu sait. La parole de Dieu peut nous montrer quand nous ne sommes pas sur la bonne voie dans certains domaines. Même si nous ne le réalisons pas pleinement, nous pouvons le demander. Dieu, attire notre attention. Fais retentir ta trompette dans ma vie. Aidez-moi à voir. Mais c'est là que nous devons continuer à travailler par nous-mêmes. Nous devons étudier, prier et jeûner. Utiliser les outils de la croissance chrétienne. Communion fraternelle. Servir. Cela nous rapproche car, souvenez-vous, si deux d'entre nous sont ensemble, trois, alors Dieu est là. Ainsi, lorsque nous nous rapprochons de lui, il est plus facile de l'entendre, d'entendre les choses qu'il essaie de faire avec nous. Nous avons donc entendu trois sons aujourd'hui. Commençons à conclure ici. Le premier était selon son ininterrompu destiné à attirer notre attention. Son de trompette. Il nous dit que nous devons nous recentrer sur Dieu. Nous devons nous présenter devant lui. Il veut que nous nous concentrions sur lui. Le deuxième était le plus court, ce son triste. Son de trompette. C'est nous qui réalisons que nous allons manquer à nos devoirs et que nous devons aller devant Dieu et nous repentir parce que nous sommes des êtres humains et que nous allons pécher. Et enfin, son de trompette, il y a le son de l'alarme ou le son de la guerre. Frères et sœurs, vous vous demandez si ce sera le son que nous entendrons à la dernière trompette, parce que c'est vraiment excitant à entendre. C'est énergisant. Mais vous et moi n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore allés aussi loin. Nous n'avons pas encore atteint le point où nous pouvons entendre la dernière trompette. Nous devons donc continuer à regarder en arrière, à l'époque d'Israël, à regarder ces types, ces exemples, pour pouvoir glaner des leçons, pour pouvoir appliquer en 23 ce que Dieu a enregistré il y a des milliers d'années. En guise de conclusion, passons au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et nous commencerons au verset 50. Au verset 50 du chapitre 15 des 1 Corinthiens. Je dis maintenant, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous montre un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, que nous soyons tous dans cette catégorie, mais nous serons tous changés. C'est ce que nous attendons, mes frères. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Le jour des trompettes représente des milliers d'années qui culminent avec ce moment où les êtres humains deviennent membres de la famille de Dieu. Souvenons-nous donc de tous les coups, de leur signification, de leur son, afin que nous puissions être là pour la dernière trompette.